France Culture.
Venez, approchez-vous. Par contre, vous, voilà, je vous présente les enseignants, donc l'enseignante d'histoire et le proviseur adjoint.
Le courrier, comme on dit, a bien fonctionné. Car les derniers mots de ces condamnés parce que juifs, communistes, homosexuels, handicapés, résistants, nous sont parvenus par-delà le temps, par des mains compatissantes qui les ont ramassés, portés, envoyés. Les mots choisis et utilisés, les récits, les styles d'écriture sont désormais décryptés par les historiens qui y trouvent de quoi documenter une histoire qu'on connaît peu, celle de l'état d'esprit qui transpire de ces mots au fur et à mesure que l'histoire contraint ceux qui doivent mourir. De véritables reliques qui redonnent vie à ces fantômes du passé que les élèves d'un collège de Drancy viennent découvrir dans la salle d'exposition du mémorial de Drancy.
C'est le lycée de la Croix à Drancy.
C'était le 11 mai 2022. Le dernier mot, seconde partie, ainsi écrivaient les fantômes. Alain Lefkovitch, Guillaume Baldi.
Et effectivement, dans l'exposition, on a aussi quelques lettres, quelques cartes qui peuvent être écrites des camps de zone sud, ici, comme Gurs, au Rivesaltes. Alors, quelqu'un veut lire les conditions dans lesquelles les Juifs peuvent écrire dans le camp de Drancy? C'est le règlement intérieur du camp. C'est quatre lignes. Qui veut lire? Vas-y, tu t'approches, c'est là.
Parle dans le micro.
Ça commence là, les Juifs.
Les Juifs pourront recevoir des lettres tous les 15 jours. Ils pourront également en envoyer tous les 15 jours. Les correspondances seront ouvertes et lues au départ par le commandant du camp. Il est recommandé de n'utiliser que des cartes postales.
Voilà, donc ici vous avez le tampon de censure. On a parlé de la censure déjà. Et là vous avez un courrier d'Abraham Baron qui a été refusé par la censure parce que si vous voulez vous approcher... Il donnait des informations, mais surtout, regardez...
Les conditions de vie données.
Comment c'est écrit?
Tout petit, tout petit.
Tout petit. Donc, effectivement, la censure, qu'est-ce qu'elle demande, là? Tu arrives à lire, là? Vous arrivez à lire, ici?
La censure ne veut pas s'en priver à la correspondance de votre...
Mari,
néanmoins, s'il persiste à écrire... Après, j'arrive
si
pas.
Serré.
Si serré. Son courrier, après, il y a le... Ne pourra... Prendra... J'arrive pas à...
Ne sera pas envoyé prochainement, enfin, voilà. J'ai parlé d'un gendarme tout à l'heure, vous vous souvenez?
Ah oui, le gendarme, j'ai oublié son prénom.
Camille Mathieu.
Juste.
Alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui?
Il va les aider.
Ouais, et il va faire sortir le courrier.
Clandestinement.
Gratuitement, mais vous avez aussi des gendarmes, ils vont faire un business de ça.
À Drancy, on fait écrire de manière forcée sur la base d'un modèle des courriers avant le départ. C'est le cas dès l'été 42. Donc c'est l'administration qui télécommande et qui téléguide ce qui va être in fine des dernières lettres. L'objectif, c'est d'essayer de débusquer les Juifs qui peuvent se cacher si éventuellement ceux qui écrivent révèlent la vraie adresse, qui a été quasiment jamais le cas, à ce qu'on en sache jusqu'à ce jour. Donc la plupart des gens écrivent à des amis qui sont pas Juifs, à des concierges, à des voisins. Et puis, c'est aussi dans l'idée d'essayer d'apaiser les inquiétudes qui pourraient se manifester, notamment au sein des populations juives, sur le sort réel, pour faire croire qu'il n'y a pas de danger au bout du chemin. Ensuite, il faut comprendre une chose, il y a la mise en scène et il y a ce que les gens pensent malgré tout. Si vous lisez la presse de l'été 42, la presse en France, on parle des déportations... vers l'Est pour travailler, entre guillemets. Si vous lisez la presse suisse qui circule en grande partie en France, on peut lire que les Juifs sont massacrés un peu partout en Europe. Si vous lisez la presse britannique qui arrive beaucoup plus difficilement sur le continent, évidemment, il y a des informations encore plus explicites que celles qui sont dans la presse suisse. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment les gens, selon les périodes, réagissent ou ne réagissent pas. Et plus, quand on est plus ou moins proche de l'épicentre de l'assassinat, c'est-à-dire l'Allemagne orientale et le gouvernement général de Pologne, c'est-à-dire ce qui n'a pas été annexé par les Allemands, on voit que les réactions ne sont pas les mêmes. Parce que quand on est là où ça se produit à proprement parler, l'assassinat de masse, les gens sont beaucoup plus en mesure de dire qu'ils vont être tués. Et c'est la même chose avec certains textes. Là, on sort du registre des derniers courriers, mais certains textes qui ont été écrits dans les ghettos, notamment dans les pays baltes, où vous avez des gens comme Avraham Soudskever ou Abba Kovner, qui très tôt écrivent qu'on est en train de tuer les juifs et qu'il faut prendre la fuite. Donc, les écrits en eux-mêmes peuvent dire beaucoup de choses, les derniers écrits peuvent dire beaucoup de choses ou très peu de choses, mais même en disant très peu de choses, ils sont informatifs d'une manière ou d'une autre. Et que ces derniers courriers, pour les analyser, les comprendre, il faut vraiment essayer de les articuler avec tout un ensemble de choses. Évidemment que ce qui est écrit est important, mais on peut en tirer encore plus en comprenant ce qui n'est pas écrit et à quel moment ça a été écrit ou pas écrit, justement. Si vous regardez certains courriers qui sont écrits en 42, ils ne sont pas écrits dans le même contexte que ceux qui sont écrits en 43 ou en 44. Courant 43, les gens commencent à évoquer l'espoir d'une libération rapide, puisque les alliés approchent, ils approchent en Italie, etc. Premier semestre 44, pareil, le contexte il est en train d'évoluer à vitesse grand V, et donc pour ceux qui vont être embarqués dans les trains, il y a aussi cet espoir-là en termes de contexte, et l'idée que la libération va intervenir rapidement, même si c'est in fine plus lent que ce que eux espèrent. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont embarqués dans les trains, pas qu'en 44, c'est particulièrement le cas en 44, mais il y en a beaucoup quand ils sont embarqués dans les trains, y compris en 43, qui espèrent que la guerre va bientôt s'arrêter. Mais cette espérance-là, elle correspond pas à ce que nous, on sait des événements, ce qui est toujours la posture classique en histoire, d'être en surplomb et de penser qu'on sait. Les acteurs du présent, ils ignorent l'avenir. Il n'y a pas une typologie, il y a quasiment, enfin, en forçant à peine le trait, il y a autant de courriers qu'il y a de personnes et qu'il y a de circonstances. Et que ça forme vraiment une mosaïque qui nous apporte des connaissances factuelles, par exemple, sur les conditions de déportation ou sur les conditions d'avant-déportation à Drancy, mais qui nous apporte aussi une mosaïque d'informations sur l'état d'esprit des victimes.
Très émouvant. Là, j'ai pas écouté la visite, je regardais. Voilà, c'était très très émouvant de voir ça, de voir même l'écriture tremblotante où on sent bien que ça a été écrit dans un moment particulier. Donc voilà, c'était utile d'amener des élèves. Il y en a une particulièrement émouvante là-bas qui est écrite depuis Auschwitz et où on, c'est une maman qui écrit à ses trois enfants et on sent que c'est des mots d'une tendresse et d'une poésie, d'une tristesse infinie, au fond là-bas, la dernière lettre. On y va ? Ça commence par « Mes enfants chéris, ces mots vous parviendront-ils jamais ? Les auriez-vous bientôt après la guerre ? Je l'ignore. » Ce sera un miracle, mais le premier miracle est que je vis encore après l'enfer que je viens de traverser. Ah, c'est écrit en direct depuis Auschwitz, c'est assez impressionnant.
C'est quand même le dernier signe de vie, et dans ce sens-là, ça a une valeur.
Annette Vivorka.
C'est comme une relique, et dans ce sens-là, c'est conservé. Par exemple, moi j'ai chez moi la carte d'identité de mon grand-père maternel avec le tampon juif, l'étoile juive qu'a portée ma mère, mais je n'ai pas de mots jetés du train. Je ne crois pas qu'il y ait une étude, à ma connaissance, systématique de ces lettres. Mais de toutes les façons, c'est des lettres dont la connaissance est relativement tardive. Alors, certaines avaient été regroupées, pas très nombreuses, par David Diamand, qui était l'archiviste des communistes juifs, de l'UJRE. Mais sinon, c'est tout à fait récemment que ces lettres rejoignent les dépôts d'archives par un phénomène qui est tout simplement celui du passage du temps. C'est-à-dire que quand la personne qui a été le destinataire de la lettre commence à prendre un certain âge, si elle n'a pas d'enfant, si ses enfants ne s'intéressent pas à cette histoire, elle aura le désir de la laisser dans des archives. Ces personnes font un dépôt au mémorial de la Shoah. Mais Il faudrait demander à Karen Taïeb, à l'archiviste, de dire depuis quand on lui dépose ces mots, mais je pense que c'est un phénomène qui est plus tardif et qui atteste finalement le sentiment que ça fait partie de l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire que si vous vous dépossédez, et si vous ne mettez pas à la poubelle ces papiers-là, quand vous vieillissez ou quand vous videz l'appartement ou la maison de vos parents, c'est que vous avez le sentiment que c'est à la fois une relique, mais que c'est aussi un document à valeur historique.
Ça a été le plus gros de notre travail depuis des années, ça a quand même été de convaincre les gens, les familles, de nous confier leurs documents et notamment les lettres qui sont extrêmement intime, hein, puisque c'est souvent un époux à sa femme ou une mère à ses enfants. Donc on est vraiment dans l'intimité de la famille. Il a fallu expliquer aux détenteurs de lettres que ça avait un intérêt pour d'autres que pour eux seuls. Et les informations qui transparaissent au travers de ces courriers en sont une explication. Voilà. Sur les parcours des convois, sur l'état d'esprit des internés, sur les rumeurs qui circulaient. La dernière lettre, jetée du train, est écrite par Benjamin Schatzmann. Elle est présentée ici. Et il explique, il est 10h30, je suis installé dans un wagon à bestiaux, ayant à côté de moi le gendre d'eux, etc. Donc cette lettre est très plutôt bien écrite, mais c'est là qu'il parle effectivement des soubresauts du wagon, puisqu'il s'est interrompu. Je reprends maintenant pour vous dire que je suis en route pour Metz, où nous assurons, nous devrions arriver ce soir, etc. Donc il est très précis, très... Il documente son l'itinéraire du wagon et il fait part des rumeurs. Donc il va dire on nous envoie à Metz où il y aurait soi-disant un camp de triage où on ferait le tri entre les déportés. Mais quand même il est prudent en disant tant que je ne l'ai pas vu je ne dis pas que c'est vrai. Il donne des précisions également sur le nombre de personnes par wagon. Il fait part d'une autre rumeur en disant bon, dès que je pourrai j'essaierai de te donner des nouvelles. Il paraît que des déportés qui ont été déportés avant nous ont donné des nouvelles et des lettres sont arrivées à l'UGIF. Tu verras auprès de cette organisation si c'est vrai. Et là, pour le coup, autant le camp de triage à Metz, ça n'a jamais existé, autant les lettres qui sont parvenues des déportés avant septembre 42, c'est vrai. Et ces lettres, on les a pour certaines retrouvées d'ailleurs.
Un courrier, c'est la parole de la victime. Sauf si il a été dicté sous la contrainte, comme c'est le cas pour certains, entre guillemets, derniers courriers. C'est des archives qui sont fondamentales et qui permettent de connaître tout un ensemble de choses qui ne sont pas documentées. Pour donner un exemple qui peut paraître bizarre ou particulier, on ne sait quasiment pas jusqu'à aujourd'hui comment sont organisés les convois de déportation. Je parle d'un point de vue logistique. Et récemment, je viens de bosser là-dessus et d'essayer de rassembler un certain nombre d'informations, notamment avec Karen Taïeb, qui est l'archiviste du mémorial de la Shoah. Et on a essayé de retrouver le maximum d'informations pour comprendre comment est-ce qu'il a été réalisé, par exemple, l'embarquement dans les wagons. Parce qu'en travaillant sur les photos de l'ensemble qui appelait l'album d'Auschwitz, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'informations qui étaient portées sur les portes des wagons, le nombre de personnes enfermées dedans... le nom d'une personne qui en fait est ce qui est appelé par les Allemands le Wagenalteste, c'est-à-dire le responsable du wagon, en cas d'évasion, il y a un juif qui est exécuté s'il y a une évasion ou s'il y a du désordre dans le wagon. Ça, c'est une méthode qu'on retrouve à travers toute l'Europe allemande quand il y a des déportations, y compris en France. Donc toutes ces questions-là, concrètement, comment ça se passe l'organisation d'un convoi quand il est organisé depuis Drancy et du Bourget et de Bobigny, ben, c'est des questions qu'on ne connaît pas. Et qui sont très peu documentées parce que la plupart des archives afférentes à cela, elles ont disparu, elles ont été détruites. Et à nouveau, c'est par la voix des victimes qu'on peut avoir certaines informations sur le nombre de personnes qui sont enfermées dans le wagon. À l'époque, c'est dit de manière plus ou moins fiable. L'éloignement dans le temps fait que le témoin, lui, ne se rappelle pas forcément de ce genre d'informations. Donc il y a plein de choses à aller trouver dans ces documents qui n'existent pas ou plus dans les archives qui nous sont parvenues.
des personnes qui ont été déportées d'un GTE, vous n'avez aucune photographie, ni du GTE, ni de la rafle, etc.
Lors la lieu.
D'un groupement de travailleurs étrangers ou d'un camp d'internement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce camp d'internement? Il y a de très rares photos. Mais grâce à ces petites lettres, à ces petites photos, vous allez pouvoir retracer des destins individuels et parler à cette occasion de l'histoire de ce camp. Donc, à l'intérieur de la grande histoire, vous mêlez tous ces destins et vous avez une histoire plus complète, plus enrichie, puis vous personnifiez. On parle de gens, on parle de personnes déportées, on parle de leurs enfants, on parle des survivants. Et toutes ces traces-là, bout à bout, finissent par faire, la grande histoire, si vous voulez.
Avant que j'ai pu finir ma lettre, le facteur vient de m'apporter ta chère lettre. J'avais déjà perdu tout espoir, car il est déjà midi passé. J'ai lu ta lettre, mon Fred et chéri, et je me repens amèrement de t'avoir fait du chagrin. J'étais ce jour-là si nerveuse, si désespérée, que je m'en suis prise à toi. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais en fait, vu la situation, elle devait être angoissée ou énervée, et donc peut-être que... Je ne sais pas ce qu'elle lui a écrit dans une lettre qu'on n'a pas, en tout cas. Je sais, mon chéri, que tu as été un fils très affectionné pour ta maman, mais les choses sont devenues telles que je suis loin de toi, comme tu dis, ayant foi en Dieu qu'un jour béni nous serons réunis de nouveau et que nous oublierons tout dans notre affection et notre tendresse. Voilà. À toi, Freddy, je t'envoie ma bénédiction, que tu sois heureux et que Dieu vous protège tous jusqu'à la fin. Amen. C'est une des dernières lettres. Donc, je suis Jacques Uziel, je suis l'arrière-petit-fils de Mathilde Barou. Elle se trouve dans un des ghettos de Salonique en attente du départ. Son fils était parti chez des parents, chez des cousins qui se trouvaient à Athènes. J'ai découvert le livre de Léon Saltiel qui a recueilli ses lettres vraiment par hasard dans une librairie à Athènes. Le sujet m'a intéressé, donc j'ai acheté le livre, et en le parcourant, j'ai eu la surprise, vraiment une très grande surprise, de tomber sur les lettres de mon arrière-grand-mère. La dernière lettre est du 17 avril, où elle dit « Nous sommes encore ici, Monsieur Blégen, je ne sais pas de qui il s'agit, t'informera de notre départ ». Au revoir, ces derniers mots, c'est au revoir, mon Freddy chéri. Avec l'aide de Dieu, nous nous rencontrerons plus tard. Je t'embrasse bien, bien fort. Ça, c'est a priori la dernière lettre du 17 avril 43. On se rend compte, parce qu'on a beaucoup dit, en général, pour la déportation des Juifs, qu'ils ne savaient pas où ils allaient, ils ne savaient pas quel aurait été leur sort. Moi, en lisant les lettres, en tout cas de mon arrière-grand-mère, j'ai l'impression qu'elle se doutait qu'elle n'allait pas revenir. Donc, ça montre aussi que la population juive de Salonique savait quel était son sort. En tout cas, vers la fin, elle le savait.
Comme par hasard, je suis tombé à 3 collections de lettres.
Léon Saltiel. Diplomate et auteur de Ne m'oubliez pas chez De Noël.
C'est environ 15 à 25 lettres par collection qui étaient écrites par 3 mères juives qui habitaient à Salonique durant la période d'occupation allemande, la période de ghetto jusqu'à leur déportation à Auschwitz, qu'elles écrivent à leur fils qui se trouve à Athènes. Athènes, à cette époque, c'est dans l'occupation italienne, alors les Italiens sont un peu. Ils font pas l'implémentation de mesures anti-juives. Alors, quand je suis tombé à cette 3 collections, que c'est le même motif, c'est les mères qui écrivent au fils, tous en Salonique, toutes les mêmes périodes. Et vraiment, moi, je n'ai pas trouvé un autre matériel comme ça dans toute l'Europe, de ce corpus de lettres, qui ne sont pas une ou deux lettres par chaque écrivain, mais c'est vraiment, tu peux rentrer dans leur histoire, tu peux voir leur personnalité. J'ai décidé de le publier séparément de ma thèse de doctorat pour valoriser leur importance et signification historique. Alors, quand nous sommes en 1942, où La situation est difficile, mais encore les mesures antisémites n'ont pas encore commencé. La narration, un peu la vie quotidienne. Qu'est-ce qui passe à la maison avec toutes les difficultés? Il n'y a pas de nourriture, il y a des travaux forcés imposés aux Juifs. Ils ont des problèmes économiques, mais quand même, la vie doit continuer. Mais après, ça change. Quand les SS arrivent à Salonique, ils imposent les premières mesures anti-juives, que ça veut dire ghettoisation, la déclaration de fortune, l'étoile jeune. Alors, le maire, on voit qu'ils ont des difficultés, ils doivent déménager au ghetto. Après, les problèmes augmentent. Mais en même temps, elle ne veut pas décrire tout à leur fils. Pour pas faire peur, pour être un peu optimiste, pour... vous savez, les mères toujours vont protéger leur fils. Alors peut-être ne vont pas décrire tout. Alors c'est une période où elles disent des choses, mais pas dire les choses. Et après, il y a quelques noms qu'ils utilisent, mais après, ils n'utilisent pas les noms. Ils disent ton ami ou ton ami qui habite à côté de moi. Alors, ils utilisent un peu des mots codes aussi. Et après, soi-disant, quand le train de déportation commence, où elle comprend que le mort arrive, elle ne sait pas qu'est-ce que c'est Auschwitz. Elle ne sait pas que sa détention finale, c'est Auschwitz, que c'est un camp d'extermination. Mais avec tout ce qui se passe autour de eux, elles comprennent que ce n'est pas un voyage de week-end. C'est la mort. C'est la mort. Elle utilise des mots très forts dans les lettres. Alors, à cette période-là, elle ne cache rien à ses fils. Les mots qu'elle utilise signifient qu'elle comprenne que c'est le dernier jour. Alors, il y a beaucoup de niveaux qu'on peut lire cette lettre, bien sûr, mais c'est vraiment, pour moi, c'est un testament de l'humanité. C'est vraiment le pur amour d'une mère à ses derniers jours qu'écrive à le fils. Elle essaye de donner au fils ses dernières lettres, toute la sagesse qu'ils ont ramassée à leur vie. Il lui dit d'être un bon homme, de trouver un bon partenaire, d'être proche de la famille, des cousins. Alors vraiment, c'est qu'est-ce que tu dis quand vous avez dit que quand tu sais que tes derniers jours arrivent, qu'est-ce que tu écris? Alors on a tout ça à peu près. Et quand elle écrit ces derniers mots, elle écrit qu'elle pleure avec les yeux, avec des larmes, et les papiers que j'ai gardés pour faire la transcription de cette lettre avaient leurs larmes dans ce papier. Alors pour moi, quand je touchais cette lettre, c'est comme tu touchais les larmes de ces mères qui écrivaient les derniers mots à leur fils, qui c'est très émouvant pour moi comme historien.
La dernière lettre qu'il a écrite, elle est dans le film. C'est un message qui est parvenu à ma famille. Et mon cousin l'a conservé dans son portefeuille jusqu'à récemment, où il l'a donné justement au musée.
Suzy Cohen, réalisatrice, autrice du film documentaire Allegria Sepharade, un retour aux sources avant l'anéantissement de sa famille.
Il avait 6 ans quand c'est arrivé et il a vu ses parents monter dans les camions devant ses yeux. Et donc c'est la dernière image qu'il a de son père et de sa mère, et de son grand-père, de sa grand-mère. Et donc il a gardé ça parce que c'est la seule chose qui reste, quoi. Et donc, c'est pour ça que cette lettre, elle est très abîmée, parce qu'elle a fréquenté son portefeuille pendant au moins 60 ans.
Je me rends à Drancy. J'y vais tranquille, mais soudain, des émotions m'envahissent violemment.
À Drancy, ils y sont conduits et vont y rester du 14 août au 2 septembre 1943. Malgré des conditions effroyables, rien n'est prévu pour servir de camp d'internement et de lieu de rassemblement à plus de 63 000 personnes qui seront pour la plupart déportées vers des camps d'extermination. Joseph réussit à écrire une missive qui par miracle est arrivée à sa destinataire.
C'est une courte lettre que Joseph écrit à Maria, la femme de son frère Jacques. Maria, qui contrairement au reste de ma famille, a été conduite à l'hôpital Rothschild en attendant que sa petite fille ait 6 mois.
Cette missive est sur une simple feuille de papier ligné jaune.
sans doute le seul papier qu'ils ont pu trouver.
Je remarque que c'est Joseph qui, en chef de famille, l'écrit, et non Jacques, le mari de Maria.
Cela traduit toute l'importance du message qu'il a envoyé.
Nous allons partir d'ici d'un jour à l'autre. Sois très courageuse et ne perds pas la tête. Je veux que tu comprennes le danger que courent tous ceux qui viennent te visiter, comme notre petit cousin, nos oncles et autres. Tu dois faire le sacrifice de ces visites, même s'il est vrai que jusqu'à présent rien n'est arrivé, mais quand ça arrive, il est alors trop tard, comme cela a été le cas pour nous tous.
Joseph annonce et prévient de ce qui leur arrive. Il indique la conduite à tenir dorénavant. Il modifie les degrés de parenté des membres de la famille pour les protéger, tout en essayant de les prévenir du danger qu'ils courent désormais. En peu de mots, il réussit à dire l'essentiel et en plus, il parvient à traduire l'essence de ma famille. Une famille aimante, qui protège, qui conseille, qui se sacrifie pour ses membres.
Oui, j'aime pas le mot dernier. Peut-être parce que je suis juive, j'ai appris en faisant des films que souvent les films de juifs commençaient et se terminaient par... c'est comme un cercle. Et celui-là est pareil. C'est pas une compréhension du monde linéaire, mais au contraire, c'est un cercle. Et du coup, c'est une façon de voir les choses. Moi, dans mon enfance, j'étais dans un lycée français et j'avais plein d'amis qui avaient des maisons de famille, des réunions de famille avec des greniers. Moi, j'ai toujours eu une espèce de, je dirais pas d'envie, mais j'étais étonné qu'on ait tellement de choses dans des greniers, dans des caves, et nous, on n'avait pas ça. Et du coup, probablement que j'ai eu un manque, et ce manque, je l'ai transformé en faisant un film qui leur rendait une part de vie. Et je trouve que ils ont de la chance d'avoir eu un film sur eux, et surtout de leur redonner une vie. Dans l'occurrence, pour moi, le dernier et le premier, il n'y a pas de dernier, il y a une réouverture sur le premier, quoi.
C'était Le Dernier Mot, seconde partie, Ainsi écrivaient les fantômes, avec les élèves du lycée Delacroix de Drancy, leurs professeurs d'histoire, Lior Lalieu et Karen Tayeb du mémorial de la Shoah, Tal Brutman, Annette Viviorca, Suzy Cohen, Léon Saltiel et Jacques Uziel. Chargée de production, Sandrine Chaperon, coordination, Emmanuel Laurentin, une histoire particulière d'Alain Lefkovitch, réalisée par Guillaume Baldi.